Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise. Sur Radio Immo.
Bonjour à vous, et voilà, on y est, dernière journée du MIPIM édition 2022. Alors, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu calme en ce vendredi matin. Tout le monde se remet tranquillement de sa semaine qui a été assez dense, hein, puisque le monde était bien présent pour cette nouvelle édition du MIPIM, toujours au Palais des Congrès et des Festivals de Cannes. Mais ce n'est pas encore terminé sur Radio Immo, puisqu'on a encore quelques belles interviews à venir, à commencer par celle d'Éric Malenfer. Bonjour Éric.
Bonjour.
Vous êtes le président de G'Expertise. Alors, on a quelques indices dans le nom, mais vous allez quand même nous rappeler ce qu'on fait chez G'Expertise.
Alors, comme vous le dites, c'est assez calme, et puis la voix est à la fin de la semaine.
Qu'est-ce qu'on fait chez... Trop de rendez-vous.
On va dire que c'était les rendez-vous. Je vous remercie pour votre complaisance. Écoutez, ce qu'on fait chez G'Expertise, initialement, nous sommes géomètres experts, et c'est une composante essentielle du cabinet. Mais en fait, notre métier, c'est de représenter l'existant dans toutes ses composantes. Donc, à la fois le foncier, le bâtiment, les équipements à l'intérieur du bâtiment, et puis d'aider à l'organiser. Voilà. Donc, aider à l'organiser, c'est typiquement faire des états de surface, c'est de faire des mises en copropriété, des divisions en volume, créer des ASL, des AFUL, vous savez, tout ce qui va permettre en fait l'organisation juridique d'un immeuble. Et puis, il y a tous les aspects qui sont moins classiques chez un géomètre, non seulement de diagnostic, mais aussi d'audit des bâtiments. On a des équipes de maîtrise d'œuvre, des économistes de la construction, qui, eux, vont auditer la qualité d'un patrimoine et aider à créer les plans prévisionnels de travaux qui permettent de bien gérer les bâtiments. Et puis, en plus, après sans ça, il y a une grosse équipe pour toute la modélisation et tous les nouveaux services tournés autour du digital. Nous ne sommes pas éditeurs de logiciels, mais on accompagne nos clients à trouver la meilleure solution et surtout de savoir pourquoi ils veulent le faire. Et donc, comme on est des créateurs de contenu, en fait, on est des créateurs de data, la très grande tendance qui a été la nôtre ces dernières années, c'est de passer de fournisseurs de livrables à des fournisseurs de livrables plus données. Parce qu'à l'intérieur d'un livrable, il y a des données. Il faut les en extraire pour qu'on puisse les interroger et les utiliser.
Alors, on va reparler de tous ces sujets dans quelques instants, Éric. Avant, j'aimerais votre avis sur cette édition 2022 du MIPIM qui s'achève. On a vu que le monde de l'immobilier était au rendez-vous, les allées étaient pleines, les gens étaient évidemment heureux de se retrouver, surtout après deux ans sans ce rendez-vous iconique. C'est l'impression que vous avez eue également ?
Totalement. D'abord, c'était la première édition, quoi. Bah, les masques, puisqu'on n'avait pas les masques.
On a eu de la chance au niveau du calendrier.
C'est quand même une très grande chance que dès lundi, on n'ait pas eu ça. Énormément de visites de très grande qualité et de rendez-vous de très grande qualité. Vous savez, depuis quelques années, le monde de l'immobilier est un monde où circule beaucoup d'argent. Pour autant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de simplicité dans les relations. Et la simplicité, c'est toujours quand même quelque chose qui permet de nouer des liens qui sont intéressants. Donc oui, très bien. Quand on se baladait dans le Palais des Festivals, il y avait juste un endroit, bien entendu, assez impressionnant. C'était le stand de l'Ukraine, qui était vide, avec des photos de toutes les villes martyrs d'Ukraine, qui étaient telles que les investisseurs les proposaient et telles qu'elles étaient juste avant le conflit. Et la bannière n'a pas été remplacée. Donc forcément, c'était quelque chose qui marquait. Mais pour autant, on n'a pas du tout senti, si vous voulez, l'énergie des investisseurs et des acteurs perturbée, parce qu'il y a un moment, il faut faire tourner le monde. Il faut au contraire montrer que nos modèles fonctionnent. Et c'est par l'espoir et la volonté, je pense qu'au contraire, on montrera qu'on peut faire un monde meilleur, plus adapté à tous les besoins qu'ont les gens sur la planète.
Merci Éric pour ce petit mot. On va revenir sur le volet gestion du patrimoine dont vous avez parlé en introduction pour nous présenter G'Expertise. C'est devenu un véritable sujet que de mettre le bon euro au bon endroit, puis surtout au bon moment.
C'est très bien résumé. En fait, assez souvent, la gestion immobilière, depuis l'arrivée des asset managers anglo-saxons au début des années 90, qui a déjà révolutionné la gestion de l'immobilier. Si vous voulez, encore avant, les immeubles étaient un petit peu gérés en curatif. C'est-à-dire, quand il y avait un problème, Madame Michu appelait, on allait remplacer, on allait réparer quelque chose. Quand les anglo-saxons sont arrivés, on a commencé à parler d'asset management. Et là, il y avait des prévisionnels, il y avait du financement, on faisait tourner les actifs, etc. Par contre, jusqu'à il y a un an, deux ans, tout ce qui concernait la gestion technique de patrimoine, donc la connaissance fine des équipements constituant le bâtiment, de leur vétusté et tout, était un peu relayé au deuxième plan. Donc on avait quelquefois un petit peu de mal à expliquer à quel point en fait c'était important. Et beaucoup d'ailleurs d'acteurs nous disaient, bon, moi j'ai un budget, je vais dire n'importe quoi, j'ai un budget de 100 millions pour l'année prochaine, on a des ratios, on a toujours fait comme ça et on continue comme ça. Puis on se rend compte que les acteurs de plus en plus se disent, oui mais en fait je constate que j'en consomme que 42 cette année, et puis finalement l'année prochaine ce sera que 56. Donc ils immobilisaient, et ça continue encore pour certains d'entre eux, ils immobilisent beaucoup d'argent, alors qu'en fait ils pourraient le faire d'une façon beaucoup plus fine, en connaissant mieux les composants de leur bâtiment, leur vétusté, et donc en sachant mieux, alors que ce soit par exemple pour calculer leur trajectoire carbone, en se disant je vais changer certains équipements, ou je vais faire une isolation thermique par l'extérieur, ou je vais, j'en sais rien, je vais changer des moquettes, des dalles de faux planchers, de faux plafonds, mais en prenant des choses qui viennent de très proches et tout. Donc tout, si vous voulez, toutes les trajectoires qu'ils veulent se fixer, à un moment ou à un autre, elles touchent les composants du bâtiment. Pour ça, il faut les connaître. Il faut savoir quand il va falloir les remplacer, quand il va falloir faire des travaux dessus. Bon. Mais d'une façon plus fine que les grands ratios qui étaient ceux d'avant. Donc là-dessus, on a vraiment une carte à jouer et qu'on joue déjà aujourd'hui. Vous le voyez aussi, dès qu'on faisait des réhabilitations, ça y est, il y a le PMD, donc il y a ce diagnostic déchets, si vous voulez, qui est présent. Très peu mis en œuvre encore, malheureusement, parce que il n'y a pas de sanctions. Donc, dès qu'il va y avoir des sanctions, ça va forcément être beaucoup plus motivant.
Mais, ça l'est toujours.
Oui, 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 ça c'est toujours vrai. Ou alors un avantage fiscal, mais là, ça ne sera pas le cas. Donc, on voit une vraie grande tendance là-dessus, qui est intéressante. Et c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, que sur le foncier, avec le ZAN, avec la zéro artificialisation nette des sols. Ben, notre métier à nous, c'est un métier d'avenir. Parce qu'on représente l'existant et il faut construire sur l'existant. Donc, on a plein de choses à faire.
Ça m'envoie vers le sujet de l'économie circulaire, parce que j'ai un peu l'impression qu'on parle de ça également, ces composants qu'il faut remplacer et qu'on peut finalement réutiliser.
C'est exactement ça. Quand on va faire une réhabilitation d'immeuble, jusqu'à peu, les clients disaient, Eric, tu étais bien gentil de vouloir nous identifier les composants, donne-nous les plans, les surfaces et ça suffira bien. Et moi, je leur propose depuis fin des années 90, donc vous voyez, ça fait longtemps quand même, dire mais je peux vous représenter les réseaux, les qualifier même, de façon à ce que vous puissiez en réutiliser tout ou partie. Et il n'y avait pas d'intérêt économique direct. Aujourd'hui, indépendamment de l'intérêt économique direct, il commence à vraiment se ressentir. Et puis vous avez eu des initiatives de recyclage aujourd'hui qui sont intéressantes. Il y a un vrai besoin, il y a moins de matériaux. C'est compliqué de se faire livrer en matériaux. Et il y a une tendance, les investisseurs aujourd'hui demandent, quasiment pour alimenter leurs critères ESG, est-ce qu'on fait des chantiers vertueux, est-ce qu'on récupère un maximum de choses? Donc ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on commence beaucoup plus à essayer, dans cette économie circulaire, de se dire, le bâtiment en fait est un réceptacle de matériaux. Et les matériaux de demain sont sans doute déjà ceux qu'on a déjà utilisés. C'est une autre vision des choses, vous voyez. Et on va arrêter d'aller peut-être les extraire du fin fond du sol.
Est-ce qu'il y a encore de la pédagogie à faire sur ces éléments? Est-ce qu'il faut encore rappeler aux gens que l'état de leur bâtiment, ce n'est pas seulement ce qu'ils voient, mais aussi l'état des composants qui sont dedans?
Oui, déjà, il y a une tendance qui a un peu changé. Moi, je pense à nos amis du property ou autres, qui étaient souvent déconsidérés dans leur travail. Et d'ailleurs, ils étaient devenus un peu des gestionnaires de contrats, plus que vraiment de connaisseurs du bâtiment. Le monde technique est un monde important. Le monde de la finance est un monde important, mais le monde technique est un monde important. Et l'un sans l'autre ne peuvent pas fonctionner. Donc oui, c'est vraiment, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Et puis il faut qu'on aide les clients, parce que quelquefois c'est compliqué. C'est vrai que faire un chantier de réhabilitation est beaucoup plus compliqué que faire un chantier neuf, par exemple. Donc il ne faut pas se leurrer, à un moment ou à un autre, ça se retrouve dans les prix finaux. Donc plus on saura identifier tout au long du cycle de vie du bâtiment, mieux on a une connaissance de l'ensemble de ses actifs, moins ça coûte cher le jour où on décide d'arbitrer quelque chose. C'est le message que nous ayons de faire passer. Et non seulement moins ça coûte cher, mais surtout plus ça va vite. Parce que assez souvent, les éléments limitants dans des opérations, c'est le temps. On sait que le temps est quelque chose de compliqué. Alors que si c'est organisé en amont, ben en fait, les filières, on les connaît déjà, les filières de recyclage ou de réemploi. Donc le jour où il faut activer, c'est facile de le faire. Moi, je prône une connaissance dans le temps de l'ensemble des composants, mais mise à jour régulièrement.
C'est plutôt pas mal. Comment est-ce que vous faites pour arriver à ces objectifs? Alors, vous m'avez dit, je ne suis pas éditeur de logiciels. Il existe des logiciels qui font de la maintenance prédictive, notamment sur les bâtiments. Il y a le BIM qui se développe dans les bâtiments, alors les nouveaux, mais qu'on peut aussi installer sur des bâtiments existants. Est-ce que vous vous servez de toutes ces technologies? Est-ce que vous en trouvez d'autres?
Bien sûr. Alors, déjà, il y a des logiciels. Et des logiciels avec des capteurs en plus qui viennent les nourrir. Donc tout ça permet effectivement une maintenance prédictive. Maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de données, il faut venir les fournir. Donc le rôle d'expert, avec au sens très large, je ne mets pas un grand E, mais de sachant sur la donnée, de producteur de données, a toute son importance. Et le biais cognitif qu'il pourrait y avoir ces derniers temps serait de croire que l'intelligence artificielle, en tout cas pour l'instant, est capable de lire tous les documents et d'analyser tout. Et d'avoir la finesse d'interprétation dans toutes les situations. On se rend compte quand même que l'interprétation humaine est quand même redoutablement efficace, donc ça laisse déjà beaucoup d'espoir à nos collaborateurs. Ça, c'est déjà un premier point. Dans le sujet du BIM, moi, je faisais des maquettes numériques dans les années 90, j'avais fait les hôpitaux de Nice et tout ça, mais à l'époque, les outils communiquaient peu. Et quand un architecte disait « vous allez me faire une coupe à tel endroit », je lançais les ordinateurs, ça calculait toute la nuit. C'était pas très utile. Aujourd'hui, les outils fonctionnent très très bien et tout. Par contre, assez étonnamment, alors que parmi les 230 personnes qu'on a, j'en ai 70 qui font de la maquette, je ne vais pas préconiser du BIM à mes clients dans tous les moments. Autant quand on va faire une phase de conception, de construction ou de réhabilitation, ça a toute sa pertinence si les équipes de maîtrise d'œuvre se mettent en œuvre avec. Autant dans la gestion de l'ensemble du patrimoine, il y a des solutions beaucoup plus frugal dans le setup, dans la modélisation des bâtiments et aussi dans leur exploitation. Et la tendance qu'on a pu voir, si vous voulez, de zéro cartographie immobilière à full BIM, quelquefois est assez déceptive parce que ça coûte cher et puis il faut le maintenir, il faut l'entretenir. Une base de données, ça s'entretient. C'est un peu comme un bâtiment. C'est le jumeau numérique, il faut l'entretenir. Et aujourd'hui, nous avons, depuis quelques années, et on le développe beaucoup, on développe le principe plutôt du SIG, c'est du système d'information géographique. C'est ce que vous avez avec le cadastre, par exemple. Et très souvent, c'est utilisé en outdoor pour de la géographie, pour de la donnée urbaine. Mais en fait, le SIG indoor, ça fonctionne très, très bien aussi. En fait, la grande différence, c'est qu'on va s'intéresser au vide, c'est-à-dire les espaces sur lesquels on vient projeter une information, plutôt que s'intéresser au plein, qui sont les composants du bâtiment qui forment la maquette numérique. Et ça peut être 2D, 3D, le problème n'est pas là, mais si on regarde dans 80-90% des cas, être avec une 2D bien renseignée en base de données qui permettent de projeter tout un tas d'informations, ça suffit à quasiment tous les usages que les gens attendent.
Finalement, l'important, c'est d'avoir les datas.
Ce qu'il faut, c'est avoir les datas et surtout les mettre à jour.
Merci beaucoup Eric Malenfer pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le président de J'Expertise. Merci d'avoir démarré cette dernière journée du MIPIM avec nous et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise sur Radio Immo.